de revente, le tome 100 atteint la somme de 75 euros.
Alexis Bédu pour finir ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RFI. On retrouve Anne Cantner pour Appel sur l'actualité.
Merci Gaëtan Plaine et bonne journée.
Radio G. 101.5 FM.
C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur 101.5 FM à l'écoute de Radio G. Bienvenue dans l'émission J'entends des voix, une nouvelle émission à plusieurs voix qui donne à entendre ce qui s'écrit, ce qui se dit, ce qui se lit et peut-être aussi ce qui se chante. J'entends des voix, c'est une demi-heure, deux fois par mois, le jeudi à 9h10 en semaine impaire sur Radio G 101.5 FM et en podcast sur radio-g.fr. J'entends des voix, c'est une thématique à travers des textes qui se suivent et ne se ressemblent pas, accompagnés d'une sélection musicale. Pour ces 30 minutes à passer ensemble, il y a Valérie, Anne et Pascal. Aujourd'hui, c'est un nouveau mois, alors nous abordons un nouveau thème. Pour réchauffer un peu nos foyers, mais surtout pour en décliner toute la flamme, nous vous lirons des textes sur le thème du feu. Alors on commence et on allume doucement le feu en poésie avec une lecture par Anne et Valérie de deux extraits de « Feu » de Perrine Lequérec.
Feu de voiture, feu des confins, feu de révolte, feu d'injustice, feu de colère, feu d'abandon, feu résistance, feu déclaration. Feu d'indigné, feu d'oublié, feu de sursaut, feu consommé, feu ciblé. Feu de consommation, feu de vengeance, feu d'impossible, feu de plaisir, feu de joie, feu ensemble, feu d'unité. Feu de puissance, feu d'impuissance, feu d'urgence. 14 juillet, liberté, égalité, fraternité. Nouvel an. Liberté, égalité, fraternité. Feu des mensonges, feu des promesses. Feu des mépris, les nuits de feu, feu des signaux.
Dans la caverne, danse des ombres, seins, hanches, ventre rond. Nue comme la roche, elle frotte deux pierres, seins, hanches, ventre rond. Ses mains cherchent ses mains savent. Autour de la première étincelle, ombre multipliée. Au loin, les chasseurs-cueilleurs, au loin les hommes, remettront de l'ordre, leur ordre. Celle qui a inventé le feu, seins, hanches, ventre rond, disparue à jamais. Sur les parois de nos foyers, elles dansent encore, elles dansent toujours, seins, hanches, ventre rond, et nos mains infatigables allument les feux.
La mort du feu. Les Oulamars fuyaient dans la nuit épouvantable. Fous de souffrance et de fatigue, tout leur semblait vain devant la calamité suprême. Le feu était mort. Ils l'élevaient dans trois cages depuis l'origine de la horde. Quatre femmes et deux guerriers le nourrissaient nuit et jour. Dans les temps les plus noirs, il recevait la substance qui le fait vivre. À l'abri de la pluie, des tempêtes, de l'inondation. Il avait franchi les fleuves et les marécages sans cesser de bleuir au matin et de s'ensanglanter le soir. Sa face puissante éloignait le lion noir et le lion jaune, l'ours des cavernes et l'ours gris, le mammouth, le tigre et le léopard. Ses dents rouges protégeaient l'homme contre le vaste monde. Toute joie habitait près de lui. Il tirait des viandes d'une odeur savoureuse, durcissait la pointe des épieux, faisait éclater la pierre dure. Les membres lui soutiraient une douceur pleine de force. Il rassurait la horde dans les forêts tremblantes, sur la savane interminable, au fond des cavernes. C'était le père, le gardien, le sauveur. Plus farouche cependant, plus terrible que les mammouths, lorsqu'il fuyait de la cage et dévorait les arbres. Il était mort. L'ennemi avait détruit deux cages. Dans la troisième, pendant la fuite, on l'avait vu défaillir, pâlir et décroître. Si faible, il ne pouvait mordre aux herbes du marécage. Il palpitait comme une bête malade. À la fin, ce fut un insecte rougeâtre que le vent meurtrissait à chaque souffle. Il s'était évanoui. Et Loulamar fuyait, dépouillé dans la nuit d'automne. Il n'y avait pas d'étoiles. Alors, la fièvre de mort tombée, beaucoup devinrent des bêtes inertes. Ils coulèrent sur le sol. Ils sombrèrent dans le repos. Les femmes résistaient mieux que les hommes. Celles qui avaient perdu leur enfant dans le marécage hurlaient comme des louves. Toutes sentaient sinistrement la déchéance de la race et les lendemains lourds. Quelques-unes, ayant sauvé leurs petits, les élevaient vers les nuages.
Venez de vous lâcheter, nous rendre témoignage. Abattez les leurs, les faux semblants, les faux courages. De penser, de dire ce que vous enviez. Nous n'avons plus de vie, à pas le feu, mais faut brûler. On peut toujours trouver raison dans les extrêmes. Arrêtez que cela n'en vaut pas la peine. De rester vigilant à tout ce qui nous entoure. La saloperie humaine, on n'en fera jamais le tour. Ce monde terrorise, nous sommes tous sous les.
avez peut-être reconnu les voix métalliques et les guitares de l'enfer du groupe Trust. Juste avant, c'était un extrait de La guerre du feu, le passage crucial de la mort du feu qui va semer le désarroi dans la tribu. Après ce brasier, nous continuons à mettre le feu aux poudres avec un passage du si romantique Jane Eyre de Charlotte Brontë, puis un extrait du sulfureux Chaperon de feu d'Anne Achy.
Cela faisait maintenant 8 semaines que M. Rochester était là. Je jouissais beaucoup de sa conversation. Les nouvelles idées, les tableaux inconnus qu'il me dépeignait me ravissaient. Il me semblait parfois trouver en lui un parent plutôt qu'un maître. Cela m'apportait un tel bonheur que je cessais de languir après la famille qui me faisait défaut. Mon humble destinée parut s'éclairer. Le vide de mon existence se combla. Ma santé enfin s'affermit. Je pris des forces et de l'embonpoint. Mais une nuit, j'entendis un murmure vague et lugubre qui venait de la chambre du dessus. Je me réveillai. Le bruit s'éteignit. L'horloge sonna 2 heures. Quelqu'un était à ma porte. Qui est là ? Personne. Il y eut un rire démoniaque, profond, contenu et étouffé qui semblait passer par le trou de la serrure. Le son étrange se répéta. Qui est là ? J'entendis un gémissement sourd. Puis des pas s'éloignèrent vers l'escalier. Enfin, le silence se rétablit. Je décidai d'aller trouver Mrs. Fairfax. Le couloir était plein de fumée et il y régnait une forte odeur de brûlé. Un craquement retentit. C'était la porte de M. Rochester. La fumée venait de là. L'instant d'après, j'avais pénétré dans sa chambre. Le lit était en flammes et M. Rochester profondément endormi, peut-être même évanoui.
Il y a bien longtemps, une jeune fille magnifique vivait avec sa mère dans un petit village. Elle avait pour habitude de porter un splendide ensemble rouge qui mettait ses formes encore fraîches et naissantes en valeur. À cause de cela, et aussi du fait de son tempérament fougueux, on la surnommait « Chaperon de feu ». Un jour, sa mère lui confia un panier en osier contenant du miel et de la crème chantilly pour sa grand-mère souffrante. La jeune femme revêtit alors son ensemble rouge, sous lequel on devinait la rondeur de ses seins et la courbe de ses hanches, puis elle partit dans la forêt pour rejoindre la demeure de sa chère grand-mère. La lumière tamisée par les branches jouait sur ses cheveux en reflets nacrés, éveillait sur son doux visage de délicates nuances de blanc et de rose. Sur le sentier parsemé de feuilles pourpres et jaunes, elle vit approcher un jeune homme. Il était grand, mince et brun, vêtu avec élégance. Son regard ténébreux et perçant se posa sur Chaperon de feu. La lueur qui venait de s'éveiller au fond de ses yeux de braise trahissait le désir qui l'envahissait. Il s'adressa à elle d'une voix profonde. « Bonjour, mademoiselle, je suis perdu. Pourriez-vous m'indiquer mon chemin ?» La jeune fille, troublée par le charme de l'inconnu, balbutia. « J'ignore où vous allez, je peux seulement vous dire qu'il y a un village au bout de ce sentier. Ma grand-mère en habite la première maison et je vais l'y rejoindre. » L'homme se sentit ému par l'innocence de la jeune femme. Sa voix mélodieuse éveillait en lui des instincts protecteurs. Il était pris d'un désir fou de la posséder, mais la présence de bûcherons qui travaillaient non loin de là l'obligeait à maîtriser sa fougue. Il la reverrait, c'était écrit. « Merci pour votre aide, charmante demoiselle. J'espère revoir bientôt votre doux visage. » Chaperon de feu resta émerveillé de cette rencontre inattendue avec le bel inconnu que le destin semblait avoir mis sur sa route. Elle continua son chemin comme sur un nuage. Elle admirait la beauté de la forêt, la montée inexorable des arbres vers le ciel, prise du désir de se sentir protégée et aimée par le mystérieux voyageur. Ce dernier, cependant, s'était égaré. Il trouva sur son chemin une maisonnette, frappa à la porte. « Qui est là ? Un voyageur égaré qui demande son chemin. Tirez la poignée et le loquet se dressera. » Une charmante dame le reçut aimablement. Les doux traits de son visage lui rappelaient la jeune fille qu'il avait croisée dans la forêt. Ses yeux brillaient de jeunesse en dépit de son âge et il fut envahi par le même désir de la protéger et de lui apporter de l'amour. « Madame, c'est très gentil à vous de m'accueillir sans crainte chez vous. Comment un garçon comme vous, à l'air si tendre, pourrait-il faire le mal ? Jamais un homme ne m'avait regardé comme vous le faites. » Ses yeux brillaient d'une flamme intense, sensuelle, prometteuse de vertige et d'extase. Il s'approcha lentement d'elle. Elle ferma les yeux, renversa la tête en arrière, offerte. Il se pencha vers elle, posa délicatement sa main sur sa taille. Leurs lèvres se rapprochaient, elle eut un soupir. « Non, non, il ne faut pas. Pourquoi ? Parce que... » Elle s'échappa de ses bras et alla se réfugier dans la salle de bain. À ce moment, on frappa à la porte. « Qui est là ? C'est moi, chaperon de feu. Tirez la poignée et le loquet se dressera. » Il vit alors entrer la jeune femme aperçue plus tôt dans la forêt, plus belle encore que dans son souvenir. Elle resta un instant figée de stupeur. Elle essaya de parler. « Je... » Mais il posa son doigt sur ses lèvres. Il lui enleva sa cape, puis déboutonna sa robe. Un frisson la parcourait. Elle déshabilla à son tour son amant et parcourut son torse de caresses prometteuses. Il se saisit du pot de miel et laissa couler le liquide sur les seins de la jeune femme, ivre de désir. Il se pencha pour lécher la pulpeuse poitrine qui s'offrait à lui, tandis que ses mains jouaient sur son corps. Dans un élan d'audace, elle mit de la crème chantilly sur ses lèvres. Sous la douceur brûlante de sa bouche gourmande, il se sentait submergé d'émotion. Il la prit. Le temps se figea dans l'éternité, comme un gage du désir enfin assouvi. Elle gémissait, frémissait, voulait crier son plaisir. Elle se sentait enfin devenir femme dans les bras de cet homme, de ce magicien qui la ravissait. L'extase les emportait tous deux. Ils se livraient totalement. Ils cédèrent ensemble au vertige du plaisir. Plus tard, quand l'apaisement revint, il l'embrassa une dernière fois avant de repartir. Le cœur rempli de joie à la pensée d'avoir connu le bonheur, elle le laissa aller, elle était désormais une femme.
Vous entendrez maintenant un extrait de la scène finale de La vérité sur Marie de Jean-Philippe Toussaint. Il sera suivi de l'indispensable lecture d'Allumer le feu de Johnny Hallyday, titre écrit en une nuit par Zazie pour l'ouverture du concert au Stade de France en 1998.
Cette nuit-là, Marie surgit dans ma chambre vers 4 heures du matin. Elle ouvrit brutalement la porte et entra. Elle était pieds nus et en t-shirt. Confuse, agitée, elle s'avança jusqu'à mon lit et me dit qu'il y avait de la fumée dans le jardin, que le feu était aux portes de la propriété. J'enfilai un pantalon et la suivis sur la terrasse. Nous errions dans la nuit dans des tourbillons de poussière. De terribles bourrasques qui avaient déjà renversé les chaises en métal noir de la table s'engouffraient par intermittence dans l'allée principale. La toile des transats maltraitée par le vent se soulevait et s'affaissait dans des claquements de draps cinglants. Je fis le tour de la maison en courant, cherchant à déterminer d'où venait le feu. Mais je ne voyais rien. La nuit était noire et venteuse, impénétrable. Les arbres s'enfonçaient dans les ténèbres et ployaient à l'unisson dans des torsions de branches et des turbulences de feuillage. La fumée commençait à devenir visible sur la terrasse. Encore légère et impalpable, quelques volutes portées par le vent qui erraient en suspension dans l'air. J'allais fermer les robinets des bonbonnes de gaz dans le jardin et j'aidais Marie à dérouler le tuyau d'arrosage, à l'allonger, à le distendre, le déployer sur le sol et le tirer jusqu'aux fenêtres pour défendre la maison. Marie courait à droite et à gauche, sur la terrasse, pour fermer les volets des fenêtres du rez-de-chaussée. Elle avait ramassé le tuyau d'arrosage et elle faisait le tour de la maison en arrosant la façade dans la nuit, s'attardant sur le bois des volets pour les imbiber d'eau, tirant brusquement le tuyau derrière elle pour le dégager si elle sentait des résistances ou des couches se former sur le sol. Le jet montait en s'arrondissant jusqu'au premier étage et la maison ruisselait sous l'averse. Des traînées d'eau dégoulinaient le long de la façade et le bois écaillé des volets mouillés luisait d'humidité dans la nuit. Nous ne savions pas où se trouvait le feu, s'il se rapprochait ou s'éloignait de la propriété. Nous ne savions rien. Le feu restait encore une abstraction invisible et lointaine. Ce qui fait que nous ressentîmes une véritable terreur, inimaginable, indescriptible, quand d'un coup, dans un bruit d'explosion qui résonna au loin, le feu passa la crête, dans un effet de souffle qui libéra une énorme quantité d'énergie. Et ce fut alors immédiatement, non pas les quelques flammèches que j'avais imaginées sortant d'un buisson au fond d'un jardin, mais une véritable ligne de feu qu'on aperçut au loin, au sommet de la crête, vivante et dynamique, crénelée, qui se mit à briller dans la nuit dans un scintillement de flammes rouges, jaunes, oranges et cuivres, bruyantes et crépitantes, que surmontaient des bouillonnements de fumée noire tourbillonnante qui montaient vers le ciel. Même si 300 mètres nous séparaient encore du brasier, nous ressentîmes immédiatement la chaleur du feu, sa lumière, sa puissance, son odeur, son grondement et sa vitesse. Les flammes commençaient déjà à descendre la colline et à fondre sur nous dans un bruit de crépitement et de sourdes respirations étouffées. Marie et moi, abandonnant alors le tuyau d'arrosage, le laissant là, par terre, enroulé, affaissé, qui continuait à écouler son jet sur le sol de la terrasse, partîmes en courant vers la vieille camionnette break garée dans les centrales. Marie, vêtue d'un simple t-shirt et de ses tongs tordus qu'elle avait réussi à enfiler au passage, mais qui la retardait plus qu'elle ne l'aidait à courir, et moi, chaussée de vieilles espadrilles, torse nu et en pantalon de toile. Marie avait pris place au volant et fonçait droit devant elle, au milieu de nuages de poussière. On apercevait la ligne fantomatique, blanche et plâtreuse, de la piste dans la lumière des phares, tandis que des massifs d'arbustes tordus et tourmentés ondulaient sur notre passage dans la nuit.
Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, forcer les portes, les barrages, sortir le loup de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines. Monter le son des guitares et le bruit des motos qui démarrent. Il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un geste. Il suffira d'une étincelle et d'un mot d'amour pour allumer le feu. Allumer le feu et faire danser les diables et les dieux. Allumer le feu et voir grandir la flamme dans vos yeux. Allumer le feu, laisser derrière toutes nos peines, nos haches de guerre, nos problèmes. Se libérer de nos chaînes, lâcher le lion dans l'arène, je veux la foudre et l'éclair, l'odeur de poudre, le tonnerre. Je veux la fête et les rires, je veux la foule en délire. Il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un contact. Il suffira d'une étincelle, d'un peu de jour pour allumer le feu. Allumer le feu et faire danser les diables et les dieux. Allumer le feu. Allumez le feu et voir grandir la flamme dans vos yeux. Il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un geste. Il suffira d'une étincelle, d'un mot d'amour pour allumer le feu. Allumez le feu et faire danser les diables et les dieux. Allumez le feu et voir grandir la flamme dans vos yeux. Oh, allumez le feu et faire danser les diables et les dieux. Allumez le feu. Allumez le feu. Allumer le feu et faire danser les diables et les dieux.
L'un sans l'autre, c'est un incendie, un incident bien senti. L'un se dit prêt à mourir pour l'autre, l'autre aussi. L'un sans l'autre, c'est un incendie qui ne s'éteint pas de la vie. L'incendie, c'est l'un sans l'autre.
C'était l'incendie de Vanessa Paradis. Maintenant, place au feu dévastateur avec Colline de Jean Giono et la lettre à Helga de Bergwijn Birgisson.
La bête souffle du feu a bondi d'entre les bruyères comme sonnaient les coups de 3 heures du matin. Elle était à ce moment-là dans les pinèdes à faire le diable à quatre. Sur l'instant, on a cru pouvoir la maîtriser sans trop de dégâts. Mais elle a rué si dru tout le jour et une partie de la nuit suivante qu'elle a rompu les bras et fatigué les cervelles de tous les gars. Comme l'aube pointait, ils l'ont vue, plus robuste et plus joyeuse que jamais, qui tordait parmi les collines son large corps pareil à un torrent. C'était trop tard. Depuis qu'elle a poussé sa tête rouge à travers les bois et les landes, son ventre de flamme suit. Sa queue derrière elle bat les braises et les cendres. Elle rampe, elle saute, elle avance. Un coup de griffe à droite, un à gauche. Ici, elle éventre une chênaie. Là, elle dévore d'un seul claquement de gueule 20 chênes blancs et 3 pompons de pin. Le dard de sa langue tâte le vent pour prendre la direction. On dirait qu'elle sait où elle va. Les buissons se sont défendus un moment en jurant. Puis la flamme s'est dressée sur eux et elle les a écrasés sous ses pieds bleus. Elle a dansé en criant de joie. Mais en dansant, la rusée, elle est allée à petits pas jusqu'aux genévriers, là-bas, qui ne se sont pas seulement défendus. En moins de rien, ils ont été couchés. Et ils criaient encore qu'elle, en terrain plat et libre, bondissait à travers les herbes. Ses muscles roux se tordent, sa grande haleine creuse un trou brûlant dans le ciel. La flamme saute, comme si elle voulait quitter la terre pour toujours. À travers son corps aminci, on peut voir toute la colline brûler.
Bien sûr que j'étais aidée à mener les brebis au bélier par cette courte journée d'hiver au ciel rougeoyant. Je m'efforçais toujours d'être disponible pour toi, aussi bien à titre d'ami que de contrôleur des réserves de fourrage du canton de Horga. Juché sur mon vieux tracteur Farmol, j'ai roulé tranquillement sur la piste longeant la mer. Je jetais un coup d'œil au récif des enfants et puis j'ai continué mon bonhomme de chemin, par devant l'abri de Fréja, là où les hommes se mettent à bander sans raison et où les femmes qui passent par là toutes seules ont la vulve qui s'humecte car c'était jadis un endroit de halte où bien des enfants ont été conçus. J'ai traversé lentement ces anciens lieux de sortilège en pensant à toi. Était-ce là le point de non-retour ? Ensuite, il a fallu descendre la ravine et traverser le ruisseau, ce filet d'eau de rien du tout, qui marque depuis toujours la limite entre nos fermes. Le vent du nord soufflait, dans le grésil et les nuages sombres pendouillaient comme des lambeaux de soleil. Je me souviens que tu es venu te pencher devant moi sur la balustrade, faisant ressortir tes blancs mamelons. Je palpais les brebis pour évaluer l'épaisseur de leur chair comme il incombe au contrôleur des provisions de fourrage. À ce moment, penché en avant de telle sorte qu'on voyait juste un de tes seins, tu as dit tout tranquillement que j'étais un expert palpeur. Et avant même de m'en rendre compte, j'avais tendu la main, pour rire, vers ton sein. Mais alors que j'ébauchais le geste par simple jeu, tu l'as dénudé, ton sein lourd et gonflé, en m'enjoignant de vérifier, comme si tu prenais la chose avec le plus grand sérieux. Je vis la rougeur envahir tes joues. Ce n'était pas la honte, mais le désir pur et simple. C'était la chaleur du désir. N'ai-je pas raison ? De voir cette partie nue de ton corps, je fus submergée par l'envie de toi. Tes mots eurent pour effet que le désir s'empara de moi avec une telle force qu'il me fallut sortir pour me rafraîchir au vent du nord et que j'errai dehors comme un vieux bélier arraché à sa brebis dans le feu de l'action. Mais j'ai tenu bon. Dieu sait à quel point ce fut dur. Lorsque vint l'été, j'allais me rafraîchir dans le petit cours d'eau derrière la ferme. Je me déshabillais entièrement et tâchais d'éteindre dans l'eau glacée le feu qui me brûlait. Mais ces bains glacés ne produisaient que l'effet inverse. Je ne reprenais mes esprits qu'après m'être masturbé comme un forcené, ce dont j'avais honte ensuite car j'avais toujours l'impression d'être observé, de faire quelque chose de mal. Je compris que je ne réussirais jamais à me libérer de ton emprise. J'aurais soif de toi jusqu'à mon dernier souffle. Je me fiche pas mal d'écrire cela, Helga. Je ne suis qu'un vieillard qui n'a plus rien à perdre. Bientôt s'éteindra la dernière flamme et ma bouche béante se remplira de terre brune. continuerai-je alors de te désirer ? Tu mis à vif en moi une attirance qui ne fit que s'exacerber et qui pouvait se transformer en brasier à tout moment, sous le moindre prétexte.
J'ai entendu ta voix dans la radio.
Et elle disait, on joue tous la même chanson, mais on la joue pas de la même façon. On écoute tous la même chanson, mais on l'entend pas.
Merci pour votre écoute. J'entends des voix, c'est terminé. D'ici là, podcastez dès maintenant sur radio-g.fr, émission J'entends des voix. L'émission revient dans 15 jours pour écouter d'autres textes choisis pour vous et par nous, sur le thème du feu, comme pour cette émission, puisque c'est un thème par mois. La semaine prochaine, c'est Tout compte fait, l'émission de découverte des contes pour tous les âges. La suite à l'écoute de Radio G, toujours sur 101.5 FM.
Radio G, 101.5 FM.
Vous aimez Radio G ? Soutenez-la. En faisant un don à notre association reconnue d'intérêt général, vous contribuerez à son développement et à la réalisation de ses nombreux projets culturels, radiophoniques et d'éducation aux médias. Radio G compte sur vous. Rendez-vous sur radio-g.fr dans la rubrique « Faire un don ». Votre participation sera déductible de vos impôts. Alors, n'hésitez plus.
Allez, debout mon cœur.
Non, papa, je suis crevée. Hier soir, j'ai encore regardé cette série, celle que j'ai pas le droit de voir. Il y a un enfant qui se fait couper la tête. On voyait tout, c'était horrible. Mais j'ai quand même tout regardé. Et ce soir, je continue. Mais tout ça, en vrai, je le dirai jamais. J'ai que 9 ans.
Ce qu'ils regardent, ça nous regarde tous. Nos conseils pour les protéger sur csa.fr.
The only picture I could paint is the one that I see. Put you in frame, I'm out my frame, I'm running out of speech. The photograph of what we have begins to fade. Tiana Taylor dancing naked in the rain. Shower down and wash away mistakes. But also know that strip the oars and that will likely break. We go from brilliant to brittle, bone to gristle, home to riddle. Glue to tape back, cash and carry. Got some flowers and I made you a meal. Wrote you a song, a bird with a word came and brought me a poem that was sealed with a kiss, the girth and shape of your lips. I'm thinking about the curve and shape of your hips as they swing when you sway. Walk away from the rip, conversating cherry red Converse. You had yellow like some fucking mustard. I had a dream that yours were fucking bloody, cause I was fucking bleeding under a tree and it was pouring like it used to be. Painting is that of my own. The only person I can be is that in my reflection. The only words that I can speak are those that of my own. Only perspective that I see is what my eyes relate. So when a smile doesn't direct, when our eyes detect the mirror image of the one I share my final breath. Before it happened, how this happened, mirror image change. Or maybe I, cause mine eyes get older in due time. And time waits for none, matter never was real. Love is real as it gets, but that's when it get real. Wrote this letter in pink, sometimes it feel like that. There was a fetish that peaked, fall down the hill like that. How we make it down the hill like that? Oh no, need to get back up the hill, cause at the bottom it's cold. And my arms won't work, and you just wanna be held. But my words won't work, you had me under your spell. I still be under your spell.
toutes les semaines, retrouvez Novorama, l'actualité de la scène indie rock, pop, électro, avec des chroniques de nouveaux albums et une interview d'un groupe en fin d'émission. Retrouvez Novorama tous les vendredis à 18h sur Radio G 101.5.
Swinging your guitar around, 'cause they wanted to hear that sound that you didn't wanna play. But I don't blame you, I don't blame you.
I don't blame you.
Been around the world in many situations, been inside many heads in different positions, but you never wanted them that way. What a cruel price you thought that you had to pay. But it never made sense to them anyway. Could you imagine when they turned their backs? They were only scratching their heads. 'Cause you simply deserve the best. Just because they knew your name doesn't mean they know from where you came. What a sad trick you thought that you had to play.
Souviens-toi, me voici.
Sailing downtown, I shouted her name, but she would not turn around. If I told her that we could fly, would she give me the time of the day? Had eyes like Nancy, then I would know just what to do. If she only had eyes like Nancy, her confidence would pull me through. In ponytails, she's got a hell of a smile. I would love to love her constantly, or at least once in a while. If I could hold her in my arms, I'd have the strength to face the world. Strength to face the world. If she only had eyes like Nancy, then I would know just what to do. If she only had eyes like Nancy, her confidence would pull me through.
pas des choses where they were. Even talking to a stranger, they refuse. We got to stop international snows. We got to stop international snows. Cause look at the divine news. I cannot see any good news. Positivity I chose. But the world, man, is confused. Many people got the blows. Communications lost between the communities. Behind our back, they hack yours. People are more selfish, don't care about minorities. Cause look at the TV news.
Shots.
forget me not, no. Some are boasting idols, casting silver and gold. I boast in the Lord, the servant of the poor. Now,
blessed is the man that tried.
www.radio-g.fr.